Alors, Roméo et Juliette dans une mise en scène de Lorenzo Malaguerra. C'est une création qu'on pourra voir notamment à l'heure bleue, mais qui sera aussi disponible sur plusieurs scènes de Suisse romande en tournée. Lorenzo Malaguerra, quel a été votre désir de départ par rapport à cette partition shakespearienne qui n'est pas un drame historique, mais qui ramène vraiment à la Vérone, à l'époque de la Renaissance italienne, avec tout un chassé-croisé entre l'ère élisabéthaine et la Renaissance italienne, et qui est, je crois, un texte qui vous accompagne comme objet de désir de longue date.
Le choix de ce texte, il date effectivement d'il y a, je sais pas, 3-4 ans environ. Il a correspondu à... Je dirais que ce texte est arrivé avec d'autres textes, dont par exemple l'échange de Claudel, mis en scène il y a 2 ans, au théâtre de Carouge. Pourquoi ? C'est très très difficile à dire. Disons, je dirais que c'est lié à deux choses. C'est lié à l'exploration d'une thématique, qui est celle de la passion amoureuse, qui m'intéresse depuis un moment, au théâtre, c'est-à-dire comment exprimer ça théâtralement. La vérité ou la réalité d'un sentiment qui est très réel dans nos vies à tous, mais qui est extrêmement compliqué à représenter au théâtre. Et puis deuxièmement, ça, c'est aussi ce genre de texte où finalement la langue est au centre, quoi. La parole est au centre du théâtre. Et que ce soit Claudel ou Shakespeare ou je sais pas, peut-être Sarah Kane bientôt. Je crois que voilà, je suis là dans ce qui m'intéresse dans la représentation théâtrale.
Alors justement, Sarah Kane, après plusieurs déceptions amoureuses, puisqu'elle disait tout de même à qui voulait bien l'entendre, et Edouard Bond l'a entendu notamment en disant que c'était une des dernières auteurs romantiques du XXe siècle. Et que pour elle, tomber amoureuse, c'était comme entrer dans un camp de concentration. Qu'en est-il justement de cet univers concentrationnaire qui est lié à l'amour dans Roméo et Juliette ?
C'est central. C'est-à-dire que on est dans une Vérone qui est une ville au fond, telle que Shakespeare l'a décrit, qui est certes une belle ville, mais une ville qui forme un huis clos, c'est-à-dire une petite société extrêmement violente, où la violence est endémique, hein, donc elle fait vraiment partie du paysage, c'est pas une chose exceptionnelle. Enfin, c'est vrai que toute cette société-là, telle que l'a décrit Shakespeare, forme effectivement un univers qui est relativement torturé, concentrationnaire, c'est peut-être un terme qu'on peut utiliser, et au sein duquel, évidemment, tous les sentiments deviennent excessifs, puisqu'on ne sait pas si le lendemain on sera vivant, quoi, bêtement. Donc, quand on tombe amoureux, de façon excessive aussi. Quand on aime quelqu'un, quand on est ami avec quelqu'un, on est aussi, l'amitié devient elle-même aussi excessive. Les rapports de génération aussi se dramatisent, s'extrémisent. Donc, effectivement, l'amour en tant que tel devient lui-même une prison à l'intérieur d'une prison.
Prison à l'intérieur d'une prison avec d'autres circonstances strictes que sont les ellipses formées par Eros et Thanatos. Il y a un paradoxe important dans la pièce pour Capulet et Montaigu. La mort est une idée toute faite dont ils semblent avoir oublié l'horreur. Leur aveuglement est d'autant plus ironique que leur âge avancé les a portés au seuil même de cette mort alors qu'ils sont les seuls à ne pas le voir. Alors, cette mort va être réinjectée d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, dans ce circuit, notamment au travers de ces vies tout le temps aux limites et en péril, mais également par ce double sacrifice, auto-consommation, on verra quels seront les termes les plus appropriés. Donc qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à cette mort rendue invisible derrière le masque de la vendetta et réinjectée par d'autres biais ?
Effectivement, la mort fait partie de la vie vraiment de façon totalement intrinsèque, une chose qu'on a plus, à laquelle on a peut-être moins affaire aujourd'hui. Mais dans la pièce, elle intervient toujours de façon totalement accidentelle, hein, la mort. Elle n'est jamais planifiée ou rarement planifiée. Et du coup, elle est d'autant plus cruelle, en fait. Donc il y a aussi un élément là qui est assez intéressant. Dans la mort des amants de Roméo et Juliette, évidemment, c'est assez compliqué parce qu'on peut se demander si... évidemment, leur mort est accidentelle. Au niveau de la narration, elle est parfaitement accidentelle. Maintenant, je pense que dès le moment où Roméo et Juliette se rencontrent, finalement, leur seule possibilité de sortie... Et finalement, le choix, je crois, profond qu'ils font dès le début, peut-être même avant qu'ils se rencontrent, ça c'est une dimension métaphysique de la pièce, c'est la mort. C'est-à-dire que la seule possibilité de faire durer cet amour-là dans cette société-là est de mourir. On pourrait presque dire que le choix de la mort chez Roméo et chez Juliette est un choix, même s'il est inconscient, je dirais que c'est un choix relativement rationnel. Et c'est le seul choix possible pour l'un et pour l'autre.
Ne pas vivre si l'autre meurt, mais tout de même beaucoup d'ambiguïté et de contradiction dans ce mouvement. Pour Roméo, si on suit l'intrigue, le bannissement c'est déjà la mort. Il ne fait qu'exécuter une ordonnance, qu'elle soit d'ordre sociétal ou autre, et même interne d'ailleurs, un mouvement intérieur déjà déterminé. Quant à Juliette, il y a quand même un dilemme impossible, et il y a un mouvement qui est presque un mouvement suicidaire, entre ces mots extrêmes, dit-elle, et ce vivant moi-même, ce poignard sanguinaire tranchera un litige. C'est donc peut-être à un certain jugement de Salomon d'intérieur qu'on fait référence, mais tout de même, la justice, c'est la lame qui tranche.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a une différence entre Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des personnages qui ne sont pas égaux ni face à l'amour ni face à la vie, je dirais de façon générale. Et dans le couple Roméo et Juliette, il est clair que celle qui mène ce couple, qui, disons, le cadre, c'est Juliette. C'est elle qui, dès le début, perçoit que cet amour est trop rapide, enfin très concrètement. Donc elle essaye de reculer, de freiner la chose par tous les moyens. Ensuite de quoi, elle va effectivement très vite avoir la conscience que cet amour est impossible. Et que effectivement, la seule possibilité, au bout d'un moment, sera oui, soit la mort par la lame, soit on ne sait pas quoi d'autre en fait. C'est-à-dire qu'elle n'entrevoit aucune autre possibilité, sinon fantasmée, qu'une mort violente. Pour Roméo, c'est très différent. Roméo, il est réactif. Au fond, il réagit aux événements, mais il en est très rarement le guide. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une différence de nature qui est absolument fondamentale dans la pièce. Ouais.
Alors, justement, chez Roméo, on est parfois assez loin de la sincérité dans l'aveu. Et Shakespeare, semble-t-il, s'en amuse. Hein. On n'est pas très loin non plus des jeux de langage et de masque, puisqu'un seul et même usage d'un langage très codifié de l'amour sert chez Roméo indistinctement d'appui à la découverte de l'amour-passion et de la nécessité de déguiser cet amour-passion aussi. C'est pas nécessairement des mouvements aussi contradictoires que cela, mais tout de même un langage extrêmement, je dirais, formaté tout de même. Ouais. Vous avez débondé hein, avec cette nouvelle traduction, dirions-nous.
Oui, absolument, absolument. Mais il faut quand même bien se souvenir que Roméo, au début de la pièce, est amoureux de quelqu'un d'autre, de Rosaline. La grande différence, c'est qu'il est amoureux de quelqu'un qui le refuse. Donc, déjà là, je dirais, le désir est extrémisé par le fait qu'il y a un refus de l'autre. Et évidemment, ça le pousse déjà dans... on voit déjà les potentialités de Roméo comme quelqu'un qui a une capacité à se projeter dans un monde fantasmatique. Dans la rencontre avec Juliette, le fait que, tout d'un coup, je pense que c'est la première femme qui lui dit oui, disons, quelqu'un dont il est amoureux, et il reçoit cet amour en retour. Donc, évidemment, ça le projette, lui. Mais ce qui est très fort, c'est qu'elle projette et lui et Juliette dans un jeu de langage qui crée l'amour. C'est-à-dire que l'amour n'est pas préexistant au langage. C'est parce qu'ils se parlent qu'ils s'aiment. C'est-à-dire que leur première rencontre, ça je le découvre en répétant, leur première rencontre finalement est une rencontre relativement, entre guillemets, banale. C'est-à-dire, voilà, on se rencontre dans une fête, on se plaît. Finalement, on n'en est pas encore au niveau de la passion. Et c'est effectivement l'apparition d'un langage commun et de jeux de langage commun qui les emmène dans la passion. C'est ça qui est très très intéressant dans la pièce.
Alors, langue commune aussi... Un mouvement de la pièce qui va vraiment vers le nocturne. Je crois que l'adjectif noir dans toute sa polysémie est l'un des plus employés dans cette pièce. Bien entendu, c'est la réplique célèbre de Roméo « Et noir, de plus en plus noir sont nos amours ». Néanmoins, à la fois climatiquement, chromatiquement, de manière à dire les humeurs aussi, le noir est omniprésent. Comment l'avez-vous conçu? Et je crois qu'il contamine d'ailleurs jusqu'au costume même. Hein.
Effectivement, la pièce se déroule en 3 jours, hein, 3-4 jours. C'est vrai que la plupart des scènes se passent la nuit. C'est très intéressant aussi parce que ça rajoute cette ambiance, je dirais, très mortifère, évidemment, de la pièce qui est très souterraine. Il y a un double rapport, hein, il y a un rapport souterrain dans cette société de violence, effectivement de noirceur, d'ambiance nocturne, qui permet dramatiquement de contraster très violemment avec l'élévation amoureuse qui se veut, en tout cas dans son langage, très lumineuse. Et puis alors il y a aussi des éléments assez intéressants, c'est que le tournant de la pièce, c'est-à-dire la mort de Tybalt et de Mercutio, hein, ce double assassinat, se passe en pleine lumière, en plein soleil, quoi. Alors, Shakespeare joue avec ça de façon permanente, quoi. C'est une pièce vraiment très yin-yang, hein, je veux dire, qui joue sur ces contrastes violents. Alors, effectivement, sur la tonalité du décor, hein, qui est fait de ruelles, de places, voilà, on joue évidemment là-dessus beaucoup.
On est entre ciel et terre, un amour qui amène à l'absolu, à la verticalité, donc. Mais qui se termine effectivement au fond du caveau, au fond du tombeau. Donc ce rapport entre horizontalité et verticalité, c'est quelque chose qui structure la scénographie, mais qui va aussi, de manière bien plus qu'emblématique, innerver le jeu même et le mouvement même que vous donnez à cette traduction scénique.
Je veux dire, l'exemple type, c'est la scène du balcon, hein, donc une verticalité qui est en fait pensée comme une impossibilité. C'est ça qui est très beau chez Shakespeare, c'est que la verticalité, au fond, signifie l'impossible but à atteindre. Hein. La verticalité, c'est à la fois Dieu, dont on aimerait qu'il nous guide, mais dont on ne connaît pas les chemins. C'est à la fois le soleil, hein, dont on aimerait qu'il illumine l'amour, dont on aimerait qu'il soit le témoin de la violence des sentiments. Mais qui finalement ne reste qu'un soleil. Ce sont aussi les étoiles qui sont les symboles, voilà, de la luminosité dans la nuit. Bon, alors effectivement, la scénographie joue sur effectivement un rapport de verticalité, c'est-à-dire que les personnages peuvent soit se retrouver au fond au sommet des toits de cette ville, soit au fond des ruelles. Et tout le jeu consiste effectivement à voir qu'est-ce que cette verticalité permet ou empêche et comment elle structure le jeu, d'ailleurs entre tous les personnages, hein, pas qu'entre Roméo et Juliette.
Comment résoudre justement cette articulation, ce dialogue entre intime et public?
C'est évidemment le grand problème, parce que c'est vrai qu'à la lecture, la pièce se prêterait mieux au cinéma qu'au théâtre, ce qui est paradoxal, mais... ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le théâtre, il faut absolument éviter toute espèce de réalisme au niveau de la scénographie, sinon c'est foutu. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir des décors, évidemment, on peut pas avoir 25 décors qui succèdent les uns aux autres, d'autant plus qu'on passe très rapidement de l'un à l'autre, quoi. Donc effectivement, il faut trouver un espace au fond qui fasse fil rouge, quoi, qui structure, qui soit la structure intime ou qui reflète la structure intime quelque part de la pièce. Je crois que dans ce cas-là, on a vraiment affaire à une pièce ville, en fait. Hein. Je crois que c'est l'élément qui est déterminant dans la pièce, c'est que tout se passe dans une ville. Alors effectivement, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais ça on peut tout à fait le marquer par la lumière. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut avoir un espace qui est suffisamment souple, hein, qui montre une ville, mais qui peut très bien montrer aussi autre chose, suivant l'éclairage qu'on donne. Et c'est évidemment le jeu là-dedans est central, quoi. C'est-à-dire que le décor est juste un appui, selon moi, chez Shakespeare, pour le jeu, et c'est le jeu qui crée les espaces.
Sur cette création de micro-espaces par le jeu, un des éléments que vous avez retenu, qui n'est pas du tout nécessairement évident, même si Baz Luhrmann, mais de manière beaucoup trop fragmentée sans doute et très clipesque, l'avait rendu dans son adaptation en 1996 avec une interprétation tout à fait, je pense, correcte de Leonardo DiCaprio. Malheureusement, Claire Danes, elle, ne surnageait pas dans cette production dans le rôle de Juliette, à nos yeux en tout cas, mais c'est la vitesse. Et c'est cet emportement, effectivement, là presque chez Baz Luhrmann jusqu'à la disparition du plan en lui-même, que vous avez voulu retrouver peut-être injecté d'une autre manière ici, dans l'engagement des corps. Dans...
Alors, évidemment, la vitesse est un élément primordial. Pourquoi ? Parce que dans cette pièce, les personnages sont très très rapidement dépassés par les événements, hein, donc ils courent après. Très littéralement, ils courent après les événements et ils essaient de régler des problèmes qui sont beaucoup trop importants pour eux. Donc on ne peut pas jouer lentement, ça c'est pas possible. Il faut savoir aussi qu'à l'époque de Shakespeare, les pièces se jouaient très vite et c'est une écriture qui est faite pour être jouée rapidement. Alors après, il faut évidemment avoir les bons enjeux dedans, mais si vous jouez lentement Shakespeare, ça, simplement ça passe pas. Il y a deux choses qui passent pas avec Shakespeare, c'est le jouer lentement et le jouer de façon intimiste. Donc évidemment, ça va vite. Ça va vite, les acteurs doivent être effectivement très engagés. Du coup, si ça va vite, eh ben, les corps évidemment se frottent, ont tendance à se violenter davantage. Et je crois que ça, c'est effectivement très important. Après, il y a aussi un autre élément que dans l'adaptation que nous avons faite de la pièce, nous avons essayé d'accélérer, c'est toute la fin de la pièce, où dans notre adaptation, on passe vraiment très très vite d'une scène à l'autre, afin finalement de montrer que cette histoire est c'est une machine infernale en fait, et que cette machine infernale ne peut finalement que aboutir à quelque chose de catastrophique.
Un des thèmes de cette pièce, c'est le thème du dédoublement, de l'entrecroisement des signes, et notamment donc les masques du théâtre qui s'ajoutent dans ce Roméo-Juliette à ceux du langage. Ainsi, Roméo entend éviter, éluder le piège des fausses apparences. Selon lui, le masque n'est pas déguisement, mais le masque serait prétexte à la révélation de la beauté. Hein. C'est cette phrase « These happy masks that kiss fair ladies », etc. Qu'est-ce qu'il en est justement sur cette question du masque ? Comment est-ce que vous souhaitez l'aborder ?
Quand Roméo et Juliette se rencontrent, en fait, ils sont masqués a priori. Hein. Honnêtement, c'est un thème évidemment très important dans la pièce, que nous avons effectivement un tout petit peu édulcoré, parce que... finalement, cette thématique du masque est quand même moins lisible aujourd'hui. Je crois que c'est un peu, c'est pas forcément. Enfin, évidemment, on sait bien que le masque révèle le personnage plus que le personnage lui-même, ou plus que une intériorité, plus qu'un personnage sans masque. Mais je trouve que dans la pièce, cette figure-là, enfin cette représentation-là du masque ou du non-masque me paraît un petit peu trop appuyée selon moi. Bon, voilà, et ça ne m'intéresse pas tellement.
Alors, ce qu'on pouvait aussi convoyer par cette dimension-là, mais d'une autre manière, c'est l'aspect comédie des erreurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ironie dans cette pièce, même si la mécanique en elle-même, enfin, on peut y percevoir d'ironie, même si la mécanique en elle-même est infernale et tragique. Mais justement, comédie des erreurs, c'est-à-dire croyant reconnaître un signe, on en interprète un autre, croyant obvier à une pente fatale, on ne fait que la renforcer. Donc il y a toute une manière peut-être aussi de ce tiraillement entre ce qui est de la coupe aux lèvres, de l'intention à la réalisation, où il y a souvent plus qu'un hiatus.
C'est effectivement là qu'est le masque, c'est-à-dire dans cette pièce, qui veut faire le bien fait le mal, qui veut t'aider fait mourir, qui veut t'aimer est, enfin, etc., etc., quoi. Alors effectivement, la notion du double dans cette pièce, elle est fondamentale, évidemment qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire que toute la pièce fonctionne par couple, hein, ou alors par triade, mais disons plutôt par couple. Roméo, Juliette, frère Laurent, Roméo, Tybalt, Mercutio, voilà, comme couple, je dirais, inverse. Et voilà, et c'est effectivement dans ce jeu des identiques et des contraires que je crois, voilà, cette thématique de la dissimulation, du masque, a toute son importance.
Alors, ultime chose, souvent la mécanique théâtrale chez Shakespeare est relativement simple. Si on prend par exemple les tragédies historiques comme Richard III, nous avons un ordre au départ. Cet ordre est bouleversé par l'action, que ce soit d'un homme, renforcé par des circonstances, et puis ensuite on assiste au rétablissement de cet ordre, qui n'est pas nécessairement l'ordre ancien, qui peut être remplacé par un autre régime, dirions-nous, mais tout de même, ce qui a été bouleversé, ce qui a un temps, comme vous le dites, a été traversé par un cataclysme, redevient une certaine forme de stabilité, tout en sachant que dans cette stabilité, il y a déjà les signes prémonitoires d'un nouveau déséquilibre. Qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça, justement, l'obscurité qui scelle la pièce, mais en même temps sur ce côté de comment rendre justement ce choc destructeur, un ordre au départ. C'est presque une opération presque de vérification au niveau moléculaire, comment ça fonctionne, etc. À un moment donné, il y a une agitation, un précipité comme ça. Et puis après, il y a un rétablissement d'un certain ordre, mais certainement beaucoup plus inquiet qu'il l'était au départ, beaucoup plus tendu, évidemment brisé de l'intérieur d'une certaine manière.
Oui, il y a un ordre, effectivement, il y a un ordre au début, mais qui est déjà très instable, hein. C'est pas un ordre, c'est pas une société qui est très stabilisée, hein, je dirais. Voilà, la guerre civile vient d'éclater à nouveau, donc même si on peut se dire que c'est une violence endémique, là il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai que, disons, l'ordre du début, moi je crois que cette pièce devrait s'appeler, évidemment, si Roméo n'intervenait pas, elle s'appellerait Juliette et Paris, hein, ou Paris et Juliette. C'est-à-dire qu'au fond, cet ordre qu'on a au début de la pièce, c'est un ordre de la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on a la génération des parents là, qui est en train de se reproduire à travers le mariage de Paris et de Juliette. L'intervention de Roméo, finalement, va faire quoi ? Va au fond aussi être le symbole d'une jeunesse qui va vouloir... qui symbolise quelque part aussi le changement, c'est-à-dire qu'on sent aussi un désir de changement, on sent un désir d'autre chose, une aspiration à un autre monde que celui qui est préétabli. Et ce qui est terrible, hein, c'est une ironie incroyable, c'est que ce changement-là, au fond, va être écrasé, comme on le sait, et va donner naissance à un ordre qui sera peut-être encore plus, je dirais, plus figé que ce qu'on avait au début de la pièce. Au moins, au début de la pièce, il y a un conflit, quoi. Il y a quelque chose qui peut permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Et là, la fin de la pièce signe quelque part un pacte entre deux familles qui, je dirais, sont quand même relativement... On les sent quand même relativement décadentes, relativement figées, fermées sur elles-mêmes. Et cette alliance, au fond, entre deux... entre deux oligopoles presque pour former une espèce de grand trust sur Vérone est une chose qui est plutôt inquiétante et plutôt le retour à un ordre ancien.